Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM en ce lundi 20 décembre 2021. Et on est en live cette semaine. Encore une fois, on vous accompagne tout au long de ces vacances de fin d'année. Et oui, période de fête avec ce début des vacances. Le Paris FC, justement, l'Olympique Lyonnais, le dérapage de trop. On verra aussi la Coupe arabe avec l'Algérie qui brille face aux Aigles de Carthage, les Tunisiens. Et sans oublier ses équipes, le du football amateur dans cette Coupe de France. Et oui, avec ses 32e de finale, sans complexe. Ça avance bien. N'oubliez pas le numéro du standard, le 01 53 48 3000 pour nous appeler, réagir. Yanis, notre réalisateur, se fera un plaisir de vous faire passer à l'antenne. Allez, comme à son habitude dans cette émission Time Sport, la tranche horaire 20h-21h, on va écouter le JT Sport, elle est concoctée par Jason.
Time Sport.
Et oui, on démarre les infos du lundi par une annonce officielle de l'UEFA. Le Stade Rennais va bien gagner son match de Conference League contre Tottenham sur tapis vert. Les Spurs, qui avaient déclaré forfait il y a plusieurs jours suite à de nombreux cas de Covid dans leur effectif, terminent donc dernier de leur groupe et se retrouvent éliminés de la compétition. Les Rennais sont en revanche premiers et qualifiés directement pour les huitièmes de finale. En tennis, Rafael Nadal annonce sur ses réseaux sociaux avoir été testé positif au Covid-19 lors de son retour en Espagne après un tournoi d'exhibition à Abu Dhabi. L'Espagnol est plus que jamais incertain pour le tournoi de Melbourne et l'Open d'Australie en janvier prochain. Et toujours des cas de Covid, cette fois en basket, où plusieurs matchs de NBA prévus entre dimanche et mardi ont été reportés. Brooklyn, Cleveland, Philadelphie et Orlando sont les franchises concernées par toutes les décisions prises par la NBA il y a maintenant quelques heures. Voilà, c'est tout pour ce lundi. On vous souhaite une bonne émission avec Bilal et toute l'équipe Time Sport sur Beurre FM.
Voilà, merci Jason pour ce JT Sport. Eh ben, en tout cas, on va retrouver Jason avec nous aussi. Il est sur ce magnifique plateau que nous offre Beurre FM à cette émission en Time Sport. Allez, Jason est avec nous. Bonsoir Jason, en ce début de semaine. Comment ça va?
Bonsoir à tous. Super week-end de foot. Entre ouais. L'Algérie.
On va voir. Super week-end, oui. Comme ci, comme ça. Ouais, pour les Algériens, à mon avis, super week-end. Pour les Lyonnais, pour le Paris FC, ça a été autre chose, ouais, hein, notamment football français, on en parle de partout, n'est-ce pas, Juan Trossé? Eh oui, outre les Pyrénées ou encore les Alpes italiens. Alors, Juan Trossé.
Hola, buenas tardes a todos. Du football et pas que du football aujourd'hui, hein, quand même. On va parler de beaucoup de choses.
On l'espère, en tout cas. Boula est avec nous ce soir. Comment ça va, Boula?
Très bien, malgré je me suis fait arracher mon portable, mais bon.
Ah oui, quand même.
Gare de la Courneuve.
Voilà, aïe, aïe, aïe.
On m'a arraché le portable, mais bon, qu'est-ce que c'est, ça arrive. C'est
là. Ouais. Yacine est là. Eh oui, notre Yacine, consultant. Comment ça va, Yacine?
Ça va, ça va.
Il a son portable, Yacine, lui. Ça va.
Dieu
merci.
Hein.
Faut faire attention, Yacine.
Attention,
ouais, ouais.
Faut faire attention, hein.
C'est ça. Allez, nous, on va se diriger.
Bon, du coup, personne n'est à l'abri. Hein.
Ouais, mais bien sûr, Yacine. Allez, on va se diriger du côté de Doha. Hein, du côté du Qatar, où justement on a vu le sacre de cette équipe des Fennecs ce samedi, et ça a fait plaisir à nombre de supporters algériens, mais aussi du football africain, voire mondial. On y va.
Time Sport, le sujet des sociaux.
Allez, justement, Jason, l'Algérie fait plaisir, le continent africain fait aussi plaisir, c'est le beau jeu. Il nous le disait, excusez-moi, Yacine, Kamel, on pense aussi à Kamel. Il y avait Fala, sans oublier aussi le coach Tolé. Le football africain vit bien, en tout cas. On l'espère à l'approche de cette phase finale de ce mondial 2022 au Qatar.
Ouais, et puis c'est un beau message aussi envoyé par l'Algérie qui assume quelque part son statut. Voilà, en gagnant cette Coupe arabe, ils envoient un message fort pour la prochaine CAN qui arrive dans quelques jours finalement. La CAN, elle approche. Et puis en attendant aussi les barrages pour le mondial. Voilà, l'Algérie, même avec une équipe un peu remaniée pour cette Coupe d'Afrique, assume son statut et puis met encore en avant le football maghrébin et africain. Donc c'est une bonne chose, moi, je pense, ce qui s'est passé ce week-end.
Ouais, alors, entre ces Yacine Boula, les Algériens, ils font plaisir. Ouguera, à la tête.
Quelque chose à dire.
Oui, non, mais ils font forcément plaisir. Maintenant, vous me connaissez bien, donc j'espère qu'ils vont mettre à profit ce qu'ils ont réussi.
Vous ne croyez pas beaucoup
Non, j'ai pas dit ça.
Non, Yacine.
Il y a quoi, quand? Dis-moi. Non,
on va revenir un peu en arrière.
Oui, bah, alors, on va revenir en arrière.
Il y a beaucoup de gens sur ce plateau-là, quand je disais que l'Algérie allait tout rafler il y a 3 ans en arrière.
Ouais.
Ils ont rigolé autour de la table.
Ouais.
Et aujourd'hui, Je pense que l'Algérie aussi fait peur à tout le monde.
Bien sûr.
Donc c'est pas une équipe remaniée, c'est même une équipe même pas bis. Voilà, ouais, même pas bis.
Ouais.
Donc,
ouais, ça c'est
donc, la réserve, la réserve est liée. Tout le monde a vu, hein. Tout le monde a vu que l'Algérie.
Mourad aussi, il est à l'écoute ce soir. Surtout, il a vu.
Surtout cette compétition a montré le niveau du footballeur algérien local surtout.
Ouais.
Parce qu'on a, on l'a beaucoup décrié.
Les joueurs, c'est vrai.
Et quand on voit la qualité de ces joueurs, je pense que.
Elle est pas mal.
On parlait beaucoup de formation. On parle de formation, de formation. C'est comme l'Algérien. Le technicien.
La formation à l'algérienne, alors.
Il ne s'est pas formé.
Ouais.
Donc c'est tout à fait faux. Les entraîneurs algériens, ils vont dans des universités, dans des écoles.
Ouais, bien sûr, il ne faut pas le négliger tout cela.
De football.
Tu fais bien de le rappeler, Yacine.
C'est un vrai pays de football.
Oui.
Et peut-être que c'est. Ils n'ont pas peut-être des dirigeants à la hauteur pour mettre en valeur toute cette nation. Parce que c'est très important de le souligner quand on a des véritables dirigeants, surtout quand je vise les présidents des clubs algériens qui pendant de très longues années se sont enrichis sur le dos de ces institutions, parce que beaucoup de clubs algériens, ce sont de véritables institutions. Peut-être par ignorance, beaucoup de monde ne connaissent pas, par exemple, le Nahd Hussein Dey, qui est un très grand formateur. Quand on voit l'équipe nationale 82 qui a. C'est à cette époque-là qu'on a découvert vraiment le niveau du football algérien. Le CR Bilkour, la GS Kabylie, le Mouloudia d'Alger, l'USMA d'Alger, le CS Constantine, l'USM Manaba. C'est un vrai pays de football, l'Algérie. Beaucoup de gens croient que l'Algérie, c'est juste un. L'Algérie, c'est déjà, en termes de superficie, c'est l'équivalent d'un continent. Beaucoup de monde en Afrique l'oublie. C'est le plus grand pays d'Afrique en termes de superficie.
Ouais.
Il y a quelques années en arrière, peut-être c'est la plus grande puissance économique.
Ouais.
Voilà. Donc automatiquement à un moment ou un autre, il va y avoir cette domination sur le plan du football. Et ce n'est qu'un début.
Bien sûr.
Ouais, et on a eu la chance à un moment donné, le football algérien a croisé le chemin de Jamel Belmadi, parce que tout
ça,
on lui doit énormément de choses. Hein. On lui doit cette rage de vaincre.
Ouais.
Parce que c'est ce qui fait la différence, parce que l'équipe du Maroc. Elle était très belle, l'équipe de la Tunisie. Il y avait aussi l'équipe d'Égypte. Hein. Ce sont les grandes nations africaines.
Bien sûr, les pharaons égyptiens.
Peut-être les meilleures nations africaines.
Oui.
Actuellement, avec le Sénégal et Cameroun. Donc, c'est juste. Bon, ils appellent ça la Coupe arabe. C'est la FIFA. Elle est devenue même avec le logo de la FIFA. Hein. Donc, là, quand il y a l'argent, on peut faire énormément de choses. Ça a été une réputation pour le mondial. Mais je pense que l'Algérie a prévenu tout le monde aujourd'hui.
Ok.
On est là.
Selon toi, l'Algérie a prévenu tout le monde. Alors on va voir. Elle a envoyé un message fort, en tout cas, au football mondial.
Surtout,
ça, c'est Yacine. Bien sûr, Yacine.
Toi, à la FIFA. Hein.
Alors, à la FIFA. Ouais. Bon, la FIFA.
Pour que les jeux de coulisses.
Ouais.
À un moment donné, il faut que ça cesse.
Alors.
Et l'Afrique, pour moi, parce qu'on n'est pas loin des barrages de la Coupe du Monde. J'espère que l'Afrique va envoyer ses meilleurs ambassadeurs. Pour représenter le continent africain.
On verra bien. Yacine.
Un pays africain.
On reste sur cette coupe arabe avec Yacine Diazon et Boula et Juan Trossé. On laisse poursuivre. Juan Trossé, alors.
Oui. À la suite de Yacine. Je suis en train d'écouter Yacine. C'est très bien. Je croyais qu'il allait me dire tout est trompé ou des choses comme ça.
Non.
Il ne m'a pas dit ça.
Non. Je crois que le football africain.
Il allait dire.
Alors.
Il était présent, mais c'est pas lui, Yacine.
Peut-être que tu nous laisses terminer les autres.
Alors,
c'est simple. C'est que ce que j'étais en train de dire, c'est que j'espère que l'Algérie va mettre à profit justement ces trois dernières années, champion de la CAN, qu'elle soit aujourd'hui champion de la coupe arabe.
Ouais.
Maintenant, il faut mettre ça à profit. Et comment on met ça à profit? C'est en se qualifiant pour le mondial du Qatar. Parce que s'il ne se qualifie pas pour le mondial du Qatar, ça aura servi absolument à rien.
Ah oui, selon
toi. Je suis vraiment désolé. On connaît très bien l'Algérie sur Beurre FM. Mais les Européens ont découvert l'Algérie en fin de compte en 82 et pas avant. C'est en 82 avec le mondial d'Espagne en 82.
Ouais.
Parce que c'est vrai que pour la plupart d'Européens, l'Algérie, c'était pas une terre de foot. Non,
alors,
je veux dire. Là, on est sur Beurre FM, et
bien
c'est
sûr.
Logique. Ouais. On a une connaissance que nous,
bien sûr.
On n'a pas.
Bien sûr, Yacine est là.
Mais ce que je veux te dire, que l'Algérie n'a pas fait tous les mondiaux depuis 82.
Ouais.
C'est une belle équipe, une belle puissance. Elle montre depuis 3 ans qu'elle a une très belle formation.
C'est un retour gagnant des Algériens.
Maintenant, Il faut continuer de la
Il faut prouver. Mais Yacine, il est d'accord.
Si on ne va pas au Qatar, encore une fois,
il faudra prouver. Après, le Qatar. Ouais. Alors, Boula, on va revenir à Yacine.
Je crois qu'il ne faut pas confondre. Là, quand tu parles de 82, je ne sais pas. 82, ils n'ont pas passé le premier tour. Alors, quand tu vois les résultats.
On sait pourquoi et comment.
Non, mais le problème, c'est que ce n'est pas. Il y a des matchs qui devaient être joués. Ils les ont pas joués comme il fallait, même si quand tu sais dans le monde du football, quand tu te fais arnaquer ou tu te fais prendre en fourchette, à un moment donné il y a un résultat où à un moment donné ils auraient dû le gagner, ils sont relâchés. Mais là et là aujourd'hui quand le 82, on a eu des joueurs exceptionnels. Mais comme il dit Yacine, et c'est là où je le rejoins.
Alors voilà.
Il faut pas oublier que les présidents après 82, ou les dirigeants, ou les joueurs de 82, ils n'étaient pas à la hauteur pour construire l'équipe nationale de football. Il y a eu un président comme Raouawa qui a monté. Il faut pas oublier
toutes les fondations.
Voilà, les fondations.
C'est vrai.
Après, dans ces fondations, tu prends un mec comme Ben Badi. Il était capitaine en 2001-2003. Ouais. Il était capitaine. Il y avait
des années 2000.
Il y avait Karim Ziani. Il y avait toute cette construction du football. Dont le papa Karim Ziani qui mettait tout le monde pour essayer de faire venir tous les joueurs qui jouaient dans les championnats européens pour venir jouer en équipe d'Algérie. Il y a tout un travail qui a été fait depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un mec comme Jamel Alabar, qui est très intelligent, qui s'inspire un petit peu de ce qu'il a appris au PSG en formation. Il s'inspire un petit peu du football français. Il s'inspire de l'Europe. Il s'inspire des grands coachs.
Ouais.
Et comme il dit encore Yacine, et je reviens encore sur Yacine parce que
il a
raison.
C'est où
ce qui a fait basculer le football algérien?
Alors c'est quoi?
C'est ce que le Paradou a mis en place.
Le Paradou
a mis en place. Et le problème entre 16 et 19 ans, 20 ans, on n'a pas eu les dirigeants ou les coachs nécessaires pour donner ce pouvoir. Aujourd'hui à l'époque du président Raouawa, on avait presque trois quarts d'effectifs qui venaient en Europe. Aujourd'hui, Jamel, il a réussi à respecter un petit peu la valeur de qualité intrinsèque des locaux, parce que quand tu appelles un loco et tu lui dis viens jouer pour l'équipe d'Algérie, ils sont toujours hésitants. Et aujourd'hui, je suis content qu'il y ait eu un gros travail de fait.
Ouais.
Et ça, Yacine a eu raison de le souligner.
Les Algériens, les Sénégalais, voilà. Et maintenant ça en découle sur le continent africain.
Quand on parle de la Coupe arabe, je trouve ça inadmissible de la part de l'organisation du Qatar d'avoir joué 20 minutes en demi-finale. Parce qu'il y a des petits détails qu'il ne faut pas oublier. Et tu prends, que ce soit...
C'est la faute de l'arbitre. Hein.
Ouais, l'arbitre.
Les Qataris qui lui ont demandé de faire jouer 20 minutes.
C'est sûr. Je pense qu'il y a un truc de pas clair là-dedans.
Ouais.
Ça n'enlève rien à la performance de l'Algérie. Ça n'enlève rien.
Oui, mais selon votre procès. La performance de l'Algérie, mais à un moment donné, ils avaient le nez un petit peu au niveau de l'Europe, au niveau du monde, de faire jouer 20 minutes. Et ça se passe où? Ça se passe où que la Coupe du Monde, elle va se passer.
Ouais. Allez, Boula, on rebondit avec Yacine. Alors, Yacine poursuit.
Le monde n'a pas découvert l'Algérie en 1982, mon cher Juan.
J'ai pas dit le monde.
Ouais, mais le
j'ai
monde,
dit une partie de l'Europe.
Le monde du football.
Ouais.
Il faut savoir que l'équipe nationale algérienne de 1958, qui était à l'époque sous domination française, l'équipe du FLN, et qui ce sont des joueurs qui faisaient le bonheur et la joie de beaucoup de clubs français à l'époque. On était colonisé par la France.
Ouais.
Entre autres, il y avait Zitouni qui était le capitaine de l'équipe de France et les capitaines de
Monaco. Joueur.
Rachid Mekhloufi était le meilleur joueur du championnat de France avec Copa et comment il s'appelle l'avant-centre Just Fontaine. Il faut savoir que l'équipe de Alain qui a fait connaître, qui a énormément participé à rendre, on va dire, internationale la cause algérienne, la guerre d'Algérie. Et après, pendant de longues années, jusqu'en 82, qui a permis à l'Algérie de faire le mondial, parce que derrière, il a fait un temps de travail, c'était une jeune nation, ça faisait 20 ans qu'on était indépendant, mais entre autres, on avait gagné des titres, on avait gagné les Jeux méditerranéens, on a gagné les Jeux africains.
Je ne dis pas le contraire.
Oui,
il s'agit pas
de
En France, le plus grand joueur français, peut-être en cette période-là, c'était Mustapha Taleb, était algérien. Le plus grand entraîneur français de l'époque, il s'appelait Kader Firoud, qui était à Nîmes. Il y avait Ahmed Oujani, qui était le meilleur attaquant du Lens. De l'équipe de Lens, c'est-à-dire qui a marqué l'histoire du football.
On le sait que le football africain a marqué, mais tu fais bien de le rappeler, Yacine.
Mais c'est important. Après, au jour d'aujourd'hui, comme je l'avais dit dans ma première intervention,
Alors, on a la chance d'avoir croisé le football algérien, d'avoir croisé Belmadi sur sa route, parce qu'il a mis tout le monde au travail. Aujourd'hui, tout le monde veut ressembler à Belmadi.
Aussi.
Même au niveau des entraîneurs, parce que
sur les autres nations,
les entraîneurs locaux algériens, ils ont une grande part de responsabilité dans ce qui est arrivé au football algérien, parce qu'ils étaient complices de leur président en faisant tellement, parce que c'est un, si on doit détailler ce qui s'est passé, mais la patte du footballeur. L'Algérien est très particulier parce qu'il y a son football, il est très plaisant, il est sucré.
Il est plaisant.
Daniel Riolo, il l'a souligné.
Oui, le confrère d'RMC, Daniel Riolo.
Offensif, les joueurs offensifs en numéro 10, ça a été toujours les joueurs algériens. On a eu Zidane, on a eu Ben Arbia, on a eu que des.
Génération 87.
Aujourd'hui, le meilleur joueur de l'équipe de France, il s'appelle Karim Benzema.
Allez, Karim Benzema.
Pour rebondir
sur ce Jason.
Allez.
Il n'est pas algérien, mais il connaît très bien le ballon.
Quelle qualification de l'Algérie ou non à la Coupe du Monde. C'est pareil, on en revient toujours à la même chose par rapport à l'Afrique, les places attribuées au mondial. Tu finis premier de ta poule. Donc, les Africains qui finissent premier de leur poule doivent encore batailler pour aller à la Coupe du Monde.
Alors que, les nations africaines,
européennes,
on en parlait avec
seconde
Juan
zone,
tu as la réponse de l'Europe. Ils veulent annuler la Coupe d'Afrique. Pourquoi ? Parce que tous les Africains ils jouent en Europe et il y a un intérêt financier dans le football anglais. Dans le football anglais, par rapport au mois de décembre, ils savent très bien qu'ils ont un tournoi qui est très très important au mois de décembre. C'est le moment le plus fort.
Aujourd'hui,
de l'Angleterre.
Même Spalletti qui est sorti
et les gens disent qu'ils vont annuler le Boxing Day. Ils vont essayer d'annuler la Coupe d'Afrique.
Le Boxing Day, c'est vrai.
Voilà. Et puis moi, je trouve que l'Afrique elle est trop ciblée. Et après, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est tous les joueurs qui jouent au Qatar, faut que tu saches que c'est des joueurs qui n'ont jamais été sollicités en Europe pour avoir des tarifs financiers par rapport à leur fin de carrière, ou que les mecs ils peuvent pas faire autrement d'aller au Qatar pour essayer de rivaliser par rapport
mais les Qataris,
à ce qu'ils
depuis ont changé leur fusil d'épaule ils prennent plus les joueurs en fin de carrière aujourd'hui. Ils sont en train de travailler sur le long terme.
Ben Madi il y a été à 27 ans, Bouguera il y a été à 27 ans, Karim Ziani il y a été à 28 ans, toute cette génération. Brahimi il n'avait pas de club qui pouvait lui donner entre 4 et 5 millions d'euros. Il est plus obligé de partir au Qatar. Le mec, il est en fin de contrat.
C'est un choix financier. Parce que quand on voit son entourage aussi, on a beaucoup de questions à se poser.
Enfin,
aujourd'hui, Blayli qui vient, tu me fais une transition, qui vient de résilier son contrat à 29 ans avec le Qatar SC. Et on entend parler à Marseille, à Rennes, à Montpellier, alors que tout le monde a démenti. On ne l'a pas contacté. Qui le conseille ? Comment on le conseille ?
Merci,
même un joueur de sa France, moi je le vois bien au Barça, par exemple.
Bon, restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. On accueillera rapidement pour la première fois sur notre antenne Gilbert Azoulay, notre invité ce soir. Et sans oublier aussi le numéro du standard. Vous pouvez nous appeler le 01 53 48 3000. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Retour sur l'antenne de Beurre FM après cette courte pause. On est toujours ensemble et ce jusqu'à la fin de l'année 2021. Et oui, avec ces magnifiques JT, ces Jason et sa prestance qui nous fait cela sur l'antenne de Beurre FM. Les JT Sport, et oui, le grand bravo de notre consultant Globetrotter Yacine. Sans oublier Boula qui nous accompagne en ce début de semaine. Et oui, Boula s'est fait voler son téléphone portable. Il y a Gara à celui qui lui a pris son téléphone portable. Bon, une petite pensée pour ton téléphone, Boula. Et en espérant le retrouver. Pourquoi pas? On sait jamais, on lance l'appel l'antenne de Beurre FM. Juan Trossé est toujours avec nous. Alors, on va s'attarder après la Coupe arabe sur cette Coupe de France.
Time Sport, The Special One.
Eh oui, et justement, il y a tant de choses à dire concernant cette Coupe de France et le Paris FC qui est rencontré en 32e de finale l'Olympique Lyonnais d'un certain Jean-Michel Aulas. Le dérapage peut-être de trop. Bonsoir Gilbert, comment allez-vous ?
Bonsoir, merci pour votre invitation.
Ah ben merci à vous de l'avoir accepté et de réagir sur notre antenne en ce début de semaine. On le rappelle, vous êtes le psycheur. Je me suis planté.
Anis,
désolé. En tout cas,
je pense qu'il a oublié.
C'est bien fait. Mais tu as raison. Gilbert, justement, on a vu ce grabuge, ces incidents se passer dans ce stade qui est le stade Charletti. Hein. C'est assez incroyable. Vraiment, c'est assez incroyable. On croyait ne plus en arriver là, mais aujourd'hui, on en revient encore à ça. Bon, on va pas jeter la pierre sur les Lyonnais. Que s'est-il réellement passé? Allez, on vous écoute, Gilbert. Allez-y.
Alors, je vais pas vous dire ce qui s'est passé. Parce que c'est pas mon job, hein, je vais pas vous mentir.
Ouais.
Et puis il y a une enquête, et puis ça serait prendre la place du président.
Ça, en fait,
ce que je peux vous dire, c'est que ça n'est jamais arrivé avec les supporters parisiens. Ça, je peux vous le garantir depuis le temps que je suis
directeur
du club. Ça n'est jamais arrivé quand soit en Ligue 2 d'ailleurs, où il y a eu des tensions, on peut le dire, avec les supporters des clubs corses, des clubs bretons, des clubs du Sud, où quand leurs supporters venaient, oui, il y avait un peu de tension avec les forces de l'ordre ou les stadiers, mais jamais on était arrivé là, jamais, jamais. Il y a eu quand même un certain nombre de successions d'événements qui ont été défavorables. Les supporters sont arrivés en retard, un peu chaud. Peut-être d'autres qui des gens qui se sont énervés, des fusillades qui sont passées, pourquoi, comment, question. Enfin, vraiment des choses qui se sont enchaînées de manière pas très très sympa en fait.
Ça, ça, c'est incroyable, justement, réaction avec Yacine ou même encore Boula. Pourquoi ces masques?
Il y a des preuves qui disent que ce sont les supporters lyonnais.
Ah non, mais attendez, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas
non.
dit.
On pose la question,
Non, aujourd'hui, de toute façon, il y a une enquête, et puis là, vous avez sans doute remarqué que le tirage de sort de la Coupe de France a dit que le vainqueur, enfin, l'équipe qui serait désignée entre le Paris FC et OL rencontrera Nice. Donc, c'est-à-dire que les instances de dirigeants ou dirigeantes n'ont pas statué sur les responsabilités. Donc, vous imaginez que moi, je ne peux pas vous dire qui a adhéré. Le président du Paris FC s'est exprimé, vous imaginez que vous l'avez entendu.
Ouais.
Et il a été extrêmement véhément sur un certain nombre de sujets qu'il doit connaître, dont il a eu vent. Voilà. Et puis, après, il y avait le président Hollas, il y avait le président Ferracci, il y avait les autorités, il y avait la police, il y avait la Fédération française de football. Il y avait quand même tout le monde qui était là. Il y a des rapports, il y avait beaucoup de monde qui ont pu voir, il y a des images. Donc, vous savez, la vérité se rappelle rapidement.
On l'espère, contre C.
Oui,
après
avoir vu les images, on se pose forcément des questions. C'est vrai que les premières images montrent, dessinent plutôt les supporters lyonnais. Et c'est vrai qu'il y avait quand même les heures et les jours qui ont suivi, qui ont précédé plutôt ce match avec la réunion au ministère de l'Intérieur, la sanction contre Aulas. Ça mettait un peu à chaud les supporters lyonnais. Mais on se pose aussi la question sur la responsabilité de l'organisateur, puisque des fumigènes sont entrés sur le terrain.
Oui.
Et la responsabilité aussi des forces de l'ordre, dans la mesure où effectivement on aurait pu prévoir que les supporters lyonnais pouvaient être présents et assez fâchés par rapport à ce qui s'est passé 48 heures
avec des idées bien précises.
Donc les responsabilités forcément vont être partagées. Apparemment,
alors,
c'est plutôt
les. Quand même une chose, c'est qu'en termes de sécurité,
ouais.
Les règles élémentaires sont fixées non pas par le club, mais par la Fédé, la police, les règles de la préfecture. Donc les règles telles qu'elles sont édictées ont été respectées à la lettre. De toute façon, c'est pas possible de faire un match si elles ne sont pas respectées. Donc à partir de là, il n'y a eu aucune dérive sur le respect des règles.
Mais comment ça se fait que les
fumigènes, ils sont arrivés comment? Comment ils arrivent à rentrer avec des fumigènes?
Pour en venir, c'est qu'après, soit vous mettez un flic derrière chaque supporter, au cas où vous videz, mais en gros, entre le pass sanitaire, le contrôle des billets, le contrôle des flux, il y a un moment où, quand vous avez une masse qui arrive, en plus, je vous rappelle que les supporters sont arrivés en retard. Donc beaucoup de nervosité, puisque un train de supporters est arrivé à 20h30 à la gare de Lyon pour un match à 21h. Autant vous dire qu'ils sont arrivés au bout d'une demi-heure, chaud comme de la braise, les Lyonnais. Donc je pense que tout ça n'a pas contribué à un peu de sérénité, peut-être, lors de l'accueil. Et s'il y a des erreurs, elles seront identifiées. De toute façon, vous savez, nous, le président s'est exprimé, hein, tout doit être fait sur la lumière sur ce club. Ce que je peux vous dire, en tout cas, nous, on n'a jamais eu de déportement, y compris lors des gros matchs. Je vous rappelle qu'on faisait les barrages contre Lens il y a 3 ans
avec
un stade plein comme un œuf, avec 70% de Lensois, puisque les Lensois étaient en masse. On n'a pas eu une bouteille, pas eu un fumigène, pas eu une insulte. On avait eu des applaudissements de la part pour les joueurs. Donc,
ça fait 3 ans. Le problème de la sanction que Aulas a eu. Je pense qu'il y a eu une réaction des supporters à travers. Je pense que c'était plus la Ligue qui était visée par rapport à sa sanction. C'était plus la Ligue qui était visée par rapport à Sanson. Les supporters, ils ont pris, ils ont voulu prendre les rênes pour essayer de régler leur compte par, à travers Aulas sur les supporters du PFC, sur les supporters du PFC. Et bon, à vrai dire, les vidéos, mais bon, toutes les vidéos, des fois, on va pas les mettre au.
Mais là, ça va dans tous les sens. Il y a, on accuse tout.
Ouais,
il y a les, Aulas qui dit que c'est pas du tout ça. C'est pas que les Lyonnais. Et les Parisiens qui disent que c'est pas du tout eux.
Il y en a qui disent, il y a même des ultras du Paris Saint-Germain qui sont peut-être impliqués.
Après-midi.
Ouais.
Non, mais ce que je peux vous dire.
Alors, j'ai
ce que je peux vous dire, c'est qu'à côté des Lyonnais, il y avait un club des loges pour les familles, des places pour les familles. Ouais. Ce qui explique le débordement, pourquoi les gens sont allés sur le terrain, parce qu'ils ont eu peur. Ce que je peux vous dire, c'est que les Lyonnais étaient à l'opposé de nos ultras. À l'opposé.
Ouais.
Vous voyez ce que je veux dire? Les ultras sont côté entre des joueurs, les Lyonnais étaient de l'autre côté, côté boulevard Kellermann.
Non, mais donc, si je comprends pas, comme vous dites, ils ont du côté des joueurs. D'habitude, les supporters, ils sont en face. D'habitude, il n'y a pas de problème. Oui. Les supporters, ils sont en face. Ils ne peuvent pas être à côté des sorties des joueurs.
Oui.
Normalement, ils sont en face. Comment que ça se fait qu'ils n'ont pas été en face? Comment que ça se fait qu'ils se sont retrouvés à droite?
Oui, ils étaient en face.
Non, ils étaient en face.
Les Lyonnais étaient parqués en face, comme d'habitude.
Oui. Normalement, c'était gérable, parce qu'ils sont loin entre les supporters du Paris FC et les supporters.
Le débordement, c'est ce qu'il faudra identifier.
Ouais.
C'est ça.
Alors finalement, le débordement, il ne vient pas d'en face. Il vient plus de l'intérieur de où il y a les supporters du PFC.
Ah non.
Il y a des fumigènes, des lancés par.
Mais c'est ça.
T'as déjà été au PFC?
Oui, j'étais à Charleroi, oui.
Ouais, bien sûr, ils connaissent très bien.
Non, mais attends.
Mais ils ont été balancés dans le terrain, sur le terrain. Oui.
Ça a toujours été.
Alors.
Charletti, ça a toujours été un stade tranquille. Hein.
Mais bien sûr. On y allait même ensemble. Bien sûr.
Ça a toujours été bien organisé.
Les médias, ils n'ont pas montré
combien de matchs au Stade Charletti. Ça a toujours été nickel. Hein.
Peut-être qu'on pourra avoir.
Je le confirme.
Nous avions un consultant qui était sur place.
Ah ben,
Fred
justement.
Était sur place.
Je sais pas
peut-être
si
qu'on
pourrait
l'avoir au téléphone, puisque lui, il était dans les gradins et a suivi donc la première mi-temps.
Ouais.
Et d'ailleurs, il a pris des images des incidents. Donc peut-être qu'il pourrait aussi nous éclairer. Mais
c'est
la question
un contexte
qu'on se
général aussi aujourd'hui.
Et
on ne va pas incriminer ni Paris FC ni Lyon.
Je pense que déjà, Aulas, déjà, ce qu'il a fait, c'est de porter plainte contre ses supporters. Déjà, moi, je trouve qu'il prend une position.
Il ne pourra pas le faire, hein. Tu peux pas
non, mais, non, mais même, il prend une position ferme. Il prend une position ferme, pas à travers ses supporters. Mais après, le problème de l'Olympique lyonnais, il date pas d'aujourd'hui, les problèmes qu'il y a dans ce club-là aujourd'hui.
Mais
aujourd'hui, toute l'âme lyonnaise, elle est plus dans le club.
Alors,
le problème de violence n'est pas particulier à l'Olympique lyonnais. Je pense qu'on est dans un contexte assez particulier.
Ouais.
Ça devient cette problématique en France.
Alors,
oui, Gilbert. Vous savez, le président de Paris Saint-Germain, souvenez-vous, qui avait interdit l'accès au club des supporters pour remettre de la paix. Et ça a marché.
Oui, il a raison.
Il a fait revenir les familles.
Il faut faire comme l'Angleterre aussi. Aussi.
Ah, mais attendez, vous dites ça. Vous dites que Romano Prou, il a tapé sur la table. Mais quand tu regardes aujourd'hui. Le nouveau PSG, ils l'ont pas suivi, ils ont réintégré les supporters. Alors, quand tu tapes sur la table, Romano Prou, il a tapé sur la table. Mais il y a un truc qu'il faut savoir, ceux qui sont derrière, ils ont pas respecté le travail que Romano Prou a fait.
Ouais,
ça veut dire que tu recommences en arrière.
Mais
aujourd'hui, t'as un mec
PSG
comme Romano Prou, il a.
Hein non, ça, c'est très bien organisé au PSG quand tu vas au Parc des Princes. Franchement, c'est tellement sécurisé que.
Écoutez, si vous avez vu, moi j'ai été voir PSG Nantes, j'ai vu les fumigènes, je sais pas comment ils ont fait pour rentrer, il y avait de la fumée partout.
Mais ça fait partie du football, c'est pas l'anniversaire des ultras.
Mais même pour les 30 ans, tu rentres pas avec des fumigènes et puis c'est comme si tu mets le feu là.
On revient à Gilbert justement. On vous laisse. Allez-y Gilbert, la réaction.
Non, je disais que on peut pas tout contrôler, c'est très compliqué les mouvements de foule.
C'est vrai.
Vous savez, on se rend pas compte, on travaille avec les supporters. Nous, vous savez, les supporters, ils sont en intimité avec nous. Ils peuvent ranger leur bannière, ils peuvent ranger leur tifo. Il y a une discussion avec la sécurité en amont. Il y a quand même un contact qui est établi en permanence pour pas qu'il y ait des dérives et pour anticiper les dérives. Là, me semble-t-il, c'est qu'il aurait fallu quand même dire stop au déplacement de supporters. C'était, en ce moment, ce qui se passe, c'est quand même chaud, quoi. Il faut
Mettre
du poing sur la table.
C'est ça, dans le football français.
Quand vous dites c'est chaud, c'est pour ça qu'à un moment donné, quand tu sévis, quand Romain Lepro, il fait quelque chose de bien, derrière, on le suit pas.
Si je regarde sur en 10 ans, finalement aujourd'hui, vous allez au Paris Saint-Germain, c'est tranquille, il n'y a plus les dérives racistes, antisémites.
Ouais.
Ça existe, c'est plus discret, ça existe sur les réseaux sociaux.
Ça gâche pas.
Ça existe sur les réseaux sociaux, mais au Paris FC, alors, ça a été vraiment toujours une belle ambiance. Tu peux y aller en famille, tranquille. Une ambiance de l'impression que c'est un match du dimanche matin. Il n'y a pas beaucoup de monde non plus.
Moi, ce que je regrette en plus, qu'est-ce que je regrette?
Alors
moi, qui j'ai fait l'Euro de football, j'ai fait la Coupe du Monde comme speaker au Stade de France, au Paris, j'ai fait des événements. C'était un moment où je retrouvais un événement fort pour les Parisiens et les supporters devant 15 000 spectateurs. Je regrette qu'on ait une première mi-temps extraordinaire.
C'est vrai.
Poursuivre.
On est d'accord, monsieur Azoulay.
Jaouen Adjam, qui est un jeune Tunisien ou Algérien, je ne sais plus. U18 de l'équipe de France. Yoann Corré, 17 ans, qui était sur Lucas Paqueta, faisait leur début parce qu'on a fait jouer les jeunes, la jeune génération de l'académie.
Ça a brisé le rêve de beaucoup de jeunes.
Leur temps fort de leur vie de jeunes joueurs professionnels.
Ouais.
Ça, on leur a caché, on leur a volé.
Et c'est
pour ça que je dis rêve et l'expérience qu'on offre à nos supporters, elle doit être respectée. Et respectée, ça veut dire ceux qui foutent le bordel, ils n'ont pas leur place. Ouais.
Exactement.
Donc, c'est bien dit.
Celui qui, exactement, il n'a pas sa place au stade.
Le club du Paris FC est très bien
structuré.
Est très bien structuré, très bien organisé. Vous avez des installations. Vous avez un coach comme Flavian en 19 qui fait un énorme travail. C'est bien de montrer qu'il y a des jeunes qui jouent avec le Paris FC.
Ouais.
Et c'est vrai que vos supporters, moi j'ai été plein de fois au PFC, ils ont rien de c'est vraiment des supporters pas méchants. Ils sont pas là avec mettre
le feu. La galerie la plus sympa de France. Hein.
Ouais. vous avez un bon public. Hein.
Moi j'étais voir le restart.
J'étais voir le restart. Il y a le côté beau. Il y a le côté un petit peu.
C'est très beau le reste.
Ouais, mais ce qui est.
Adad, il
a mis quelque chose en place entre les bobos, les gens de banlieue, les gens de quartier, les blacks, les beurs. Et je regarde, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de problème.
Très belle ambiance sur Restart hier, c'était une très belle ambiance.
Le Restart, ils font un travail de réflexion par rapport à cette population.
Ils sont bien, ces clubs de la capitale française.
Et le PFC, pareil.
Pareil, le PFC, le Restart, c'est vrai. Oui, Yassine, on va terminer avec
le Restart ne méritait pas quand même.
Ouais.
Moi, j'aurais bien aimé les voir le match aller jusqu'aux prolongations, parce qu'au premier mi-temps, il y avait de la place pour le Red Star de mettre au moins.
Il y a eu quelques espaces dans la défense quand même.
Après le but,
ils cherchent des défenseurs.
Allez, courage pour le PFC aussi, le Red Star, club francilien. Voilà. Un grand merci Gilbert d'avoir été avec nous du Paris FC.
Merci pour votre invitation, vraiment. Plaisir de vous croiser au stade. Il y a une belle ambiance.
On aura l'occasion.
On est bien, on est décontracté. Il fait un peu froid, je vous cache. C'est agréable.
Il n'y a pas de problème. On viendra avec l'équipe Tam Sport. Allez, on laisse notre invité. On va essayer de retrouver, si possible, Fred. Voilà, Fred aussi, qui était justement avant la pause. Bonsoir Fred, comment ça va?
Bonsoir l'équipe Time Sport. Bonsoir Beret.
Ça va bien?
Ça va super. Écoute, je suis en train d'écouter attentivement monsieur Azoulay.
Bien sûr. C'est vrai, il s'est passé quand même il y a eu on le disait des petits incidents et ça le match a été arrêté et en plus tu y étais Fred, c'est bien ça?
J'y étais.
En les tribunes.
Effectivement.
Ouais.
C'est vrai que je vais souvent Charletti ces derniers temps parce que il y a un beau projet, il y a l'ambition pour ce club de Ligue 2 de monter en Ligue 1. C'est d'ailleurs le plus gros budget de Ligue 2. Il y a une belle équipe, il y a beaucoup de jeunes qui jouent en équipe de France Espoir, comme l'a dit M. Azoulay. Il y a le jeune Adjam qui joue en U18, il y a Ousmane Camara, il y a beaucoup de joueurs du PFC qui jouent en équipe de France. Et c'est vrai que nous, on était au stade, ça se passait très très bien en première mi-temps. Il y avait beaucoup de familles, il y avait beaucoup de clubs partenaires, des petits clubs amateurs qui étaient venus avec les jeunes licenciés du club. Il y avait une grosse ambiance festive, c'est d'ailleurs le record d'influence sur le Paris FC, son record d'influence depuis le match de barrage face à Toulouse pour la montée en Ligue 1.
Ouais.
Et c'est vrai que cet incident est venu vraiment franchement de nulle part, parce que c'est vrai qu'avant le match, moi j'ai beaucoup parlé avec des gens en dehors de Charletti.
Bien sûr.
Et avant le match, il y avait une bonne ambiance entre les Lyonnais et les supporters du Paris FC. Et c'est vrai qu'au retour de la pause à la mi-temps, il y a eu un débordement qui a explosé du côté du COP visiteur, du COP lyonnais en l'occurrence. Et en quelques secondes, il y a eu un envahissement de terrain, c'était très rapidement.
Ouais.
Et c'est vrai que M. Azoulay, speaker du Paris FC, a demandé aux supporters de retourner dans les tribunes.
Ouais.
Assez rapidement. Ça s'est vraiment fait rapidement. Sur le coup,
on pensait tous que le match allait reprendre. On n'avait pas pris conscience en fait de l'ampleur en fait de cet envahissement de terrain. Et voilà, le match a été annulé 30 minutes après.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est vraiment un préjudice, hein. C'est un préjudice important qu'a subi le Paris FC, parce que ce match c'était l'occasion pour eux de rassembler les fans,
aussi, de montrer qu'ils
étaient capables, le Paris FC.
Ouais.
Des supporters du bassin.
Ouais, il y a eu Fred, il y a eu des incidents dans la tribune où tu étais. On a vu les images que tu as prises, quelques-unes des images. Comment ça s'est passé de ton côté?
Alors moi, de mon côté, il faut savoir qu'à Charletti, le COP des ultras du Paris FC est de l'autre côté du COP des supporters visiteurs. Donc on ne peut pas leur faire cette reproche au Paris FC.
Oui.
Moi, de mon côté, ça se passait très bien. Il y avait même des supporters lyonnais qui étaient avec nous.
Quand même, voilà.
Aucun problème.
Oui.
Nous, on a célébré le but de Gaëtan Laura en début de match. Eux,
oui,
ont célébré l'égalisation de Mbélé. Et ça s'est fait sans animosité, dans une bonne ambiance, en fait. Dans une bonne ambiance, c'est vrai que voilà, le Paris FC,
oui,
c'est pas le Paris SG, c'est un club de Ligue 2, c'est pas un club de Ligue 1, il n'y a aucune rivalité entre les deux clubs.
Eh oui.
Donc il y avait vraiment une bonne ambiance avant le match. Je pense que les gens étaient venus pour voir un beau spectacle, pour découvrir les installations de Charletti pour beaucoup. Et c'est en ça que le préjudice est subi par le Paris FC. Au-delà du préjudice économique, c'est aussi un préjudice social. Et c'est ça qui est
déplorable.
Le club regrette beaucoup.
Eh oui. Et nous aussi, merci Fred, qui est officier, qui est entraîneur dans cette émission, hein. Merci Fred d'avoir, oui, été avec nous et d'avoir réagi justement suite à cette rencontre qui était entre le Paris FC et aussi l'Olympique Lyonnais pour ce 32e de finale de la Coupe de France édition 2021-2022. On fait une courte pause avant de revenir rapidement avec vous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. On parlera encore de ces petits poussés de clubs en Coupe de France. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en compagnie des consultants ce soir avec Yacine Boula.
Exactement.
Jason nous, ouais, fait le privilège de nous accompagner. Aïe, 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 le magnifique Jason et Juan Trossé. Un petit clin d'œil aussi avec Yanis, notre réalisateur. Et oui, qu'on retrouve cette semaine. Vous retrouverez Giovanni avec Vanessa à partir de 22h. Allez, on va s'attarder du côté du Standard. On a Fatima, une auditrice qui nous a appelé. Voilà, qui nous appelle pour la Coupe arabe, je crois, pour le sacre de l'Algérie. Bonsoir Fatima.
Bonsoir. Je
vous oublie
toute l'équipe.
Oui.
Je ne sais pas si vous êtes pour un moment sur les pseudo-algériens qui ont été se plaindre à la FIFA, dire que l'Algérie n'est pas arabe. Alors,
ouais,
pourquoi ils sont dans la Coupe arabe? Ça a été publié dans le journal Paris Point. Alors, je voudrais leur répondre que les 130 ans de colonisation française, ici de Mahara, n'a pas réussi à effacer notre identité arabe des Algériens. Vous ne réussirez jamais de nous isoler du monde arabe, car nous sommes une partie de lui. Et merci beaucoup.
Merci Fatima pour merci cette réaction. C'est vrai que bon, là sur oui, l'aspect un peu géopolitique quoi, et aussi
oui,
sur le sport. Avec ce sacre.
Elle a raison qu'il y a
selon Boula,
il y a un dirigeant du Qatar,
ouais,
qui avait dit que l'Algérie ne faisait pas partie de l'Arabie. Et c'est pour ça, et c'est, ouais, vrai que la Coupe arabe, nous, c'est vrai que nous, on fait partie du Maghreb, mais je trouve que c'est bien de faire une coupe arabe.
Oui, il y avait pas mal de pays.
Même si on fait partie du Maghreb, on reste dans une vie à maghrébin arabe. On peut pas dire qu'on n'est pas des arabes. Ça c'est un faux problème. Je pense que c'est un faux problème. Comme ils ont pas les résultats sportifs, ils veulent comme s'ils voulaient nous évincer de cette coupe où on a été invité par le Qatar.
Ouais.
Mais c'est plus quelqu'un du Qatar qui l'avait dit ça, et nous on n'a pas de compte à rendre à la personne qui avait dit ouais, genre on n'est pas des arabes. Je crois que le plus important c'est de faire une coupe arabe, et puis ils ont voulu nous inviter, ils ont voulu inviter la Tunisie. on a la même religion et bon c'est bien de se retrouver là-bas au Qatar. C'était un avant de la Coupe du Monde et je trouve que
on parle de sport, on parle pas de religion, on parle pas de religion.
Bien sûr, c'est la géopolitique de bas étage parce que on pourrait se poser la question et pourquoi la Turquie joue la Coupe d'Europe.
Oui, bien sûr.
Parce qu'il y a juste une toute petite partie qui est européenne. C'est vraiment une stupidité d'un dirigeant qui fait ce type de déclaration.
Ça.
Mais ça s'arrête là.
Et l'Algérie était la bienvenue sur cette coupe arabe. Oui, Jason, pour terminer avec la réaction de Fatima, notre auditrice.
Ça a été respecté, même les Maghrébins. Enfin, c'est pas senti. Après, c'est vrai qu'il y a eu une petite polémique sur l'arbitrage, des fois, des décisions un peu bizarres. Mais ça arrive dans toutes les compétitions.
Sur les 20 minutes d'arrêt de jeu.
La Coupe d'Afrique, j'ai déjà vu plus de 13 minutes.
Ils ont voulu nous la faire à l'envers.
Oui, bien sûr.
Mais ils avaient tellement honte politique, au niveau politique, au niveau du football. Qatari par rapport à ils organisent la Coupe arabe et il y a un problème sur les 20 minutes.
C'est pas la Coupe arabe. Ils organisent, c'est la FIFA qui est. C'est une coupe qui est devenue label de la FIFA. Oui. C'est la FIFA qui détient le label. C'est-à-dire, elle a été organisée en collaboration avec.
C'est la FIFA qui a mis
en
place.
Ça a été fait pour voir un petit peu. Un nom du mondial.
Ils ont l'argent,
ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils décident.
Ça veut dire qu'on a 3 matchs en plus si c'est la FIFA. Alors. On a 3 matchs en plus sur les 33 victoires.
Ça, c'est un gros problème justement.
32 matchs en défaite, ça veut dire que.
33.
Rendez-vous là pour terminer.
33 matchs.
On espère avoir répondu à Fatima, notre auditrice. Oui. On espère en tout cas avoir répondu à Fatima, notre auditrice. Bon, elle a dû partir. Bon, ben voilà, on a essayé de répondre à sa question. Un grand merci en tout cas à Fatima d'avoir composé le 01 53 48 3000. Nous, on va s'attarder sur le dernier sujet de cette émission.
Time Sport. Le duel.
Eh oui, pour cette 105e édition de la fameuse Coupe de France et les clubs, les petits poussés, Boula, eh ben on marquait le coup, quoi. On était présents. C'est bien ça? Eh oui, Yacine. On voit les ogres de la Ligue 2, de la Ligue 1, mais il y a les autres aussi qui sont là.
Il y a l'équipe de National 3 qui a éliminé Angers, quand même, avec deux buts à zéro. Et voilà, c'est ça le charme de la Coupe de France. Il y a les, de temps en temps, des petits poussés qui font vivre encore la magie du football. Et qui, voilà, c'est ça. On pense une grande pensée aux amateurs. Ils vont se dire, tiens, il y a des choses qui peuvent arriver, on peut le faire. D'ailleurs, je pense toujours au match du Red Star. Pour moi, il y avait de la place hier pour le Red Star de pouvoir se qualifier.
Ils n'ont pas eu chez nous. Il y en a beaucoup de clubs.
Bien sûr, difficilement. Ouais. Même Marseille, il était mené.
Marseille, Toulouse,
Tu fais bien de me rappeler.
Même le PSG n'a mis que 3 buts à.
Ça a été débloqué.
Exactement.
Ils auraient galéré, mais
c'était pas simple pour eux. C'était pas si simple pour eux.
C'est la Coupe de France, c'est un peu la Coupe du Monde des clubs amateurs. Tout le monde veut essayer de se qualifier. Après, il y a un truc qui nous fait plaisir, c'est la SCAN. Un des plus grands centres de formation qu'il y a eu à l'époque.
Ça permet de revoir des clubs mythiques.
Exactement. Les clubs mythiques de la formation, la SCAN, qui a formé les Zidane, les Vieira, les Peter Lucin, les Adel Boutouba. Et voilà, c'est bien. Et après, t'as des clubs comme aussi Guignon qui ont été en finale en national. T'as des équipes comme Calais en amateur. La rivalité entre clubs amateurs et professionnels, on sent qu'il y a les clubs amateurs.
Même le Red Star, il a fait une finale. Ouais. Hein, il a fait une finale il y a quoi? Il y a 7-8 ans en arrière. C'était Farid Bezouine qui a marqué, je pense, c'était en demi-finale. Il a marqué un super but.
Ce qu'il faut signaler, c'est que c'est une spécificité très française en fait. Très 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 française. Exemple, il n'y a qu'un seul club de la deuxième division espagnole qui est arrivé en finale de la Coupe du Roi. C'était en 1980. Et c'était le Castilla, le filial du Real Madrid, qui est arrivé en finale face au Real Madrid, au Santiago Bernabéu, et ils en ont pris 6.
C'était le Castilla.
Oui, c'est l'équipe réserve. Mais c'est l'équipe réserve. Et c'est la seule fois
En Algérie, il y avait une équipe de 4e division qui est arrivée en finale de Coupe d'Algérie.
C'est pour ça que je dis que c'est une spécificité française. Quand je suis arrivé en France, et on a commencé à voir des Quilly, des Calais, des équipes comme ça, des équipes amateurs, voire des 3e division, des nationales qui étaient capables de faire des performances. On continue à être très étonné de l'importance que pour les équipes amateurs françaises, la coupe de France. En Espagne, c'est impensable. Là, on vient d'assister.
C'est arrivé, le Real de Madrid s'est fait éliminer.
Par Alcorcon, au 32e de finale. Mais c'est très rare qu'il y ait des grosses équipes qui se font éliminer, Cette année, il y a quelques jours, Grenade s'est fait sortir par une équipe, effectivement, des catégories inférieures. Ouais. Mais c'est extrêmement rare en Espagne, je vous dis, la seule fois où une équipe des 12e division, le Cachan,
pas de la même façon la Coupe du Roi.
Et pourquoi donc ? C'est très bien pour la France, c'est très bien pour la France que ça soit
une spécificité française. D'ailleurs, le titre de Coupe de France, ça a toute son importance. C'est pas le cas en Espagne quand on gagne la Coupe du Roi. C'est comme on a gagné la Galette du Roi. C'est pas la même chose.
Ouais,
de National 3.
Ouais, Jason.
5 clubs de National 3.
C'est beaucoup.
C'est du jamais vu. 5 clubs de National 3. Et en plus, quand tu regardes le tirage, tu dis que c'est peut-être pas encore fini pour certains. Sans s'enflammer. Je vois des affiches de N3 face à Amiens, des clubs comme Amiens, sans manquer de respect aux Amiennois ou quoi que ce soit.
Ouais.
Des affiches, c'est jouable, je pense. Ouais. Il peut y avoir encore des surprises au prochain tour. C'est ça qui est incroyable cette année. Il y a beaucoup de clubs qui peuvent croire.
D'ailleurs,
le Red Star,
il y a une occasion, mais vraiment, mais je m'en remets pas parce que j'adore le Red Star. C'est un club mythique francilien. C'est l'un des rares clubs franciliens où il y a vraiment de l'ambiance. De l'ambiance. Et c'est l'un des rares stades qui ressemble à l'Algérie, hein, parce que c'est encore un stade qui n'est pas encore refait. Ils ont refait la pelouse, ça a été magnifique. Il avait une occasion, il était à deux mètres, l'attaquant tout seul, il frappe, au lieu de la placer facilement. Il a voulu totalement.
C'est la différence.
Et je pense, s'il aurait mis ce but-là, le match aurait pris totalement une autre tournure.
C'est Yacine qui l'a dit.
Il y avait de la place, et ça aurait été quand même d'avoir un club français.
En plus de ça, ce qui est bien au Restart, c'est des vrais supporters. Les gens qui viennent voir le Restart, ils ne viennent pas pour faire de la main, ils aiment le club, ils aiment le Restart.
Ouais, tout comme Giovanni aussi.
Il y a des personnes qui ont 80 ans qui viennent au stade. Hein. Ouais. Et je pense qu'on ne le voit pas, Peut-être qu'on va le croiser à Nantes, à Lens, mais pas au Parc des Princes.
Mais peut-être que le supporter que tu es pourra aller voir le Paris FC une fois Lyon sera éliminé sur le tapis vert, puisque le Paris FC
pourra être parti pour le Paris FC.
Qu'il faut oublier, c'est les clubs des... du 93, à l'époque, c'était le club des communistes, le Restart.
On dépend Jules Rémy.
Jean-Claude Bras. Jean-Claude Bras, tout le budget qu'il avait.
C'était le plus grand club français.
Ouais, c'est le club.
Voilà, c'est le club 40, 50, 60, 70.
L'argent, il allait la chercher dans le 93.
D'accord.
C'est l'ancêtre du PSG. Ouais. C'est le doyen des clubs franciliens, tout simplement. Quand le Red Star existait, le Paris Saint-Germain n'était pas encore dans les starting blocks.
Paris, il faut rappeler, les années 70.
Il a été créé en 69.
Et sachez qu'il y a pas mal d'actionnaires qui cherchent à racheter le Restart. Et Patrice Haddad n'est pas vendeur, à part une astronomique.
Boula, il fait l'avocat, il vient de Patrice Haddad. Ça n'a rien à voir avec...
On le connaît bien, Boula.
Mais ça permet...
Bébé.
Le Rafam est toujours très bien reçu par monsieur Patrice Haddad.
Merci de le rappeler.
Voilà. Franchement, le Rafam est toujours très bien reçu.
Et nous, on le reçoit bien aussi.
Patrice Haddad.
Voilà.
D'ailleurs, on le remercie. Voilà. Je pense qu'avec Bilal, il y a une bonne affinité.
Moi, je suis assez cool avec tout le monde.
Mais je pense que le club est en train de se transformer.
Avec
les travaux, avec le nouveau stade.
Quand un club de la capitale encore,
c'est quelque chose.
Dans l'élite, quoi. Avec le Paris Saint-Germain, le PFC. Le Restart, ça serait pas mal. Comme en Espagne.
Déjà, pour y aller, il faut traverser le marché de Colombo.
Mais le PFC, c'est Paris mythique. Quand il a Vinci et il a comment s'appelle les pays arabes derrière lui. Faut que tu saches que la fille de Ferracci, c'est quand même elle a des accords politiques avec Macron. et a fait partie de son groupe.
Ils ont cet avantage-là.
Voilà.
Et puis quand eux, ils ont atterri le Bahreïn.
Il n'est pas venu par hasard.
Il fait partie des. Ah ben c'est normal, quand on est président du club, il faut chercher le. Après, il faut aller taper dans les portes pour trouver les partenaires pour faire fonctionner ton club.
Il faut aller
et
au
c'est
bout,
tant mieux pour le Paris FC, parce que quand on voit le nombre de. Tout à l'heure, tu parlais de l'entraîneur du U19 ou toutes les catégories des jeunes du Paris FC, le travail qu'ils font, et ils le font grâce aujourd'hui à toute une équipe de dirigeants qui sont en train de se dîner pour leur apporter. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas les U19 du Paris FC, il n'y a pas les U17, il n'y a pas les U15.
Que le PSG, ils ont toujours eu des bons jeunes.
Ils font
travailler très bien, comme Drancy, comme Montfermeil.
Oui, juste un petit exemple, le petit Aït Nouri qui est aujourd'hui, qui fait le bonheur de Wolverhampton, c'est un peu produit du Paris. C'est juste un exemple du Paris FC.
Ben Arfa, pareil.
On a des petites dédicaces. Allez, c'est la fin de cette émission. On va les balancer comme ça sur l'antenne de Beurre FM. C'est Nasser qui nous écoute avec Kali et son neveu, voilà, qui mange du panettone, voilà, qui est Naëlou, sans oublier aussi Sarah et Anna, voilà, sa petite nièce. Voilà, ils sont sur le périphérique, ils nous écoutent. Sans oublier Malik, voilà, un ami de Mourad, voilà, qui nous écoute. Ça, c'est pour les petites.
C'est Malik Amraoui.
Dédicaces. Ah, je sais pas. Je sais pas. Moi, c'est un Malik. Je balance les noms, les prénoms et voilà, tout simplement.
En tout cas, Malik Amraoui.
Ah, une belle personne. Ce Malik Amraoui, à mon avis, qu'on pourra retrouver.
En plus, c'est
un vrai footeur, Renaud Blois. On l'avait reçu sur cette antenne.
Ouais, il est passé à côté d'une très grande carrière.
Et ouais.
Je pense qu'il s'est mis à manger beaucoup de merguez.
Ah, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Pas omelette.
On le salue quand même.
Ouais. Pas omelette, c'était mieux.
Frite omelette.
Non, si
l'omelette,
tu veux.
C'est français. Frite omelette, c'est algérien. Ah, ben c'est
voilà.
Pas pareil.
Frite omelette. Voilà,
avec un peu d'harissa.
Ah ouais. Et des labellas de Boufadec. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique.
C'est l'odeur du Ramadan.
Ah là là.
Maman de Bilal, et il t'envoie un message clair.
Un grand merci à Boula. Et aussi à Juan Trossé, sans oublier Jason et Yacine, et ainsi que vous, les auditrices, les auditeurs de Beurre FM, toujours de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre sur l'antenne. Merci au réalisateur Yanis. Allez, vous retrouver à 22h à la réalisation Giovanni, sans oublier Vanessa. Bye bye, très belle soirée à toutes et à tous.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.